Je ne viens pas à la francophonie pour faire des miracles, pour réinventer la boussole, mais je suis convaincue que notre organisation est à la croisée des chemins. Je considère la francophonie comme une organisation très d'union avec beaucoup d'autres partenaires, comme une organisation qui servira de plus en plus de catalyseur.
Pascal Paradou.
La francophonie comme trait d'union, ce sont les premiers mots de Louise Mushikiwabo, élue secrétaire générale de l'OIF en octobre 2018. Elle succède à Michaël Jean lors du sommet de Yerevan. Une Rwandaise remplace une Canadienne d'origine haïtienne. Succession difficile et très politique, et c'est cette histoire que raconte Bertin Leblanc dans Éléments de langage, une BD imaginée avec Paul Gros pour le dessin. Bonjour Bertin Leblanc.
Bonjour. Pascal.
Le grand public ne vous connaît pas forcément, mais vous avez vécu cet événement de l'intérieur, car vous étiez porte-parole de Michaël Jean dans les deux dernières années de son mandat. Donc c'est du vécu que vous nous racontez.
Tout à fait. C'est une autobiographie, comme on dit souvent. Donc c'est une période que j'ai tenue à raconter avec le recul du temps. Parce que ça a été évidemment une période de crise en termes de communication très forte, très violente, intense, qui nous a mené au sommet d'Erevan avec l'issue que vous connaissez. Et moi, je suis d'abord et avant tout un journaliste, donc je suis devenu un peu accidentellement, comme ça arrive souvent dans notre métier, un communicant. Et je ne me suis pas départi de ce regard, en fait, pendant toute cette période, parce que ça me paraissait à la fois étrange et à la fois très anthropologique. Donc je me suis dit, tiens, très tôt en fait, je me suis dit, il y a quelque chose à raconter en fait dans cette aventure.
C'est quoi le job d'un porte-parole ?
Mon Dieu, l'idée c'est de créer une narration autour de ce qu'a envie de dire et de déployer le secrétaire général, dans ce cas-là, Michaël Jean. Elle avait une posture très dynamique, très engagée sur toutes les questions qui lui tenaient à cœur et qui lui tiennent toujours à cœur, les droits humains, la question des femmes, la question de la jeunesse, la question des enfants et le développement de la francophonie. Donc l'idée c'était de raconter ce déploiement, raconter la francophonie aussi et toutes ses multiplicités, parce que bon, vous êtes bien placé pour le savoir, la francophonie est multiple et variée, et c'est ça qui était fascinant. Quand je suis rentré, en fait, je me suis dit, waouh, toutes ces différentes couches, toutes ces différentes cultures qui se réunissent au sein de l'Organisation internationale de la francophonie me donnaient un beau récit narratif pour un communicant.
Mais les membres des organisations internationales n'ont pas de droit de réserve. Vous avez le droit de tout raconter ? Parce que vous balancez.
J'ai raconté ce qui était racontable. Je n'ai pas tout dit. Évidemment, l'idée, ce n'est pas de balancer, en fait. Je pense que j'avais envie de raconter cette histoire principalement parce que j'ai quitté cette fonction de façon relativement dramatique, pas pour moi, mais surtout pour Madame Jean, avec un très fort sentiment d'injustice. Le sentiment justement de ne pas avoir fait mon boulot de communicant et de journaliste jusqu'à la fin, parce qu'il y avait une histoire à raconter qui, pour moi, à cause du contexte différent, celui au Québec, celui en France, celui dans le reste de la francophonie, on n'a pas réussi en fait à bien expliquer ce qu'on voulait faire et avec la finalité que vous savez.
Mais vous dites que vous n'avez pas balancé, mais quand même, vous racontez les coulisses, vous racontez les jeux d'influence et un certain nombre de petites vacheries.
Vous pouvez le considérer ainsi. J'ai voulu donner en fait l'idée aussi quand on raconte une histoire, j'ai l'ambition, c'était de créer un récit. Je l'ai fait avec un auteur qui ne connaît pas la francophonie, Paul Gros, qui est au dessin, à qui j'ai raconté évidemment toute cette saga, toute cette aventure. Et il fallait créer un récit, c'est-à-dire un début, un milieu, une fin, des rebondissements. Et c'était, très honnêtement, c'était une période très violente, autant à l'interne, comme vous l'avez constaté, et à l'externe, et sur le plan politique, et sur le plan à l'intérieur même de l'organisation. Donc c'est intéressant, je pense. Je voulais que les gens comprennent quand même que une aventure comme ça en termes de communication et sur le plan politique, ça, c'est le combat qu'a mené Michaël Jean. Il était aussi à l'intérieur de l'organisation parce qu'elle avait souhaité faire un certain nombre de réformes. Et évidemment, quand on bouge les choses, c'est plus compliqué. Et je pense que c'est important pour le lecteur, parce que c'est d'abord une œuvre, hein, c'est pas non plus... loin de moi l'intention de régler des comptes. Je voulais juste qu'on puisse savoir ce qui s'était passé et le sentiment global qu'on ressent après une histoire pareille.
Mais alors pourquoi justement, Bertin Leblanc, en avoir fait une bande dessinée? Pourquoi pas un récit, un roman ou un essai sur la francophonie?
Moi, j'ai longtemps été caméraman, donc j'ai fait de l'actualité pendant très longtemps. Donc, j'ai eu, pendant 15 ans, j'ai découpé des histoires. En fait, quand on est reporter sur le terrain, on conçoit une histoire, on a 24 heures pour écrire un récit, et je le concevais comme cadreur. Et donc, très vite, ça m'a semblé le meilleur médium pour moi. Je ne suis pas une très belle plume. J'adore la BD politique. Je vous avoue que je ne savais pas si ça allait fonctionner. J'ai écrit le récit, je l'ai proposé à quelques éditeurs et coup de chance.
Il y avait quand même eu un précédent, c'est celui d'Antonin Baudry qui fut conseiller de Dominique de Villepin, alors ministre des Affaires étrangères, et qui, il y a maintenant une dizaine d'années, a publié sur le même principe Quai d'Orsay. Mais à l'époque, c'était un pseudo. Lui, en tant qu'auteur, avait un pseudo et tous les personnages de sa BD avaient des pseudos où on n'arrivait pas à les identifier totalement. Vous, c'est Cash. Emmanuel Macron, c'est Emmanuel Macron. Michaël Jean, c'est Michaël Jean. Louise Mouchikiwabo, c'est Louise Mouchikiwabo. Et Bertin Leblanc, c'est vous.
Oui, je me suis posé la question. Honnêtement, on a discuté légèrement avec mon éditeur. Et une source d'inspiration importante, évidemment, c'est Quai d'Orsay. Tout le monde sait que c'est Dominique de Villepin qui est le grand personnage. Après, je trouvais qu'il y avait une dimension journalistique que je voulais malgré tout porter. Je voulais que les gens reconnaissent le récit. Et on l'a construit un peu avec ce souci d'un début, milieu, une fin, un suspense. On a parlé de western pendant un moment. Et j'ai fait l'exercice de changer complètement les noms et ça tombait à plat, en fait. Ça n'avait plus tellement de sens. Et on m'aurait posé la question, est-ce que c'est Michaël Jean? Est-ce que c'est Louise Mouchikiwabo? Je préfère être dans une démarche de vérité documentaire. Et je trouve que l'humour permet quand même un certain recul par rapport à cette période. On n'est pas non plus dans une vindique. Je pense que l'humour permet d'aborder des choses complexes, importantes, sans trop se prendre la tête.
Alors nous allons, grâce à vous Bertin Leblanc, raconter les coulisses de l'Organisation internationale de la francophonie, mais parlons de l'OIF, on parle de l'Afrique, et parlant de l'Afrique, on parle du Salon du livre africain de Genève, ailleurs quand la Suisse s'intéresse au continent. Bonjour Boniface Mongobusa.
Bonjour Pascal Pardou.
Vous êtes auteur, critique littéraire et programmateur avec Pascal Kramer de ce salon africain. Car en fait, c'est une programmation au sein du salon du livre de Genève, mais c'est une vieille tradition.
Oui, c'est une vieille tradition. Au départ, on était à Palais Expo, qui est le grand lieu d'exposition genevois. Mais depuis l'arrivée de la Covid, on fait ce qu'on appelle le salon livre. Donc, c'est un salon très restreint. Et donc, c'est la troisième année qu'on le fait. On espère que l'année prochaine, on pourra repartir à Palais Expo et puis accueillir notre public habituel. Oui.
Comment nommeriez-vous la particularité de la littérature africaine, du moins écrite sur le continent, puisque finalement, c'est comme un tiré à part de ce Salon du Livre de Genève?
Oui, je trouve ce mot très important, hein, tiré à part. Il manquait un peu au sein de ce salon la part africaine et je suis bien heureux qu'il y ait ce salon africain à Genève parce que c'est un peu une sorte d'imaginaire africain, un peu de flamboyance africaine au cœur de cette ville très policée.
C'est une particularité thématique ou stylistique? Sachant qu'il y a quand même des auteurs, on ne peut pas parler de la littérature africaine comme d'un tout.
Oui, les deux. Je pense que, il faut savoir quand même aussi qu'à l'origine de ce salon, en tout cas du prix, il y a un auteur très important qui est Amadou Kourouma, et vous savez bien qu'il a un usage assez personnel, particulier, original de la langue française. Et je pense que quand je parle de l'accent africain, un peu le paysage africain. Et évidemment, tout cela est traduit par la langue et la manière d'utiliser la langue est différente. La manière des Suisses d'utiliser la langue française, il y a une particularité suisse, il y a une particularité belge, il y a une particularité canadienne et je crois qu'il y a une particularité africaine aussi.
Ken Bugul, Felwinsar, Sami Tchak, Mahama Saleh Haroun, c'est toute une génération qui se retrouve à Genève. Encore peu de femmes.
Oh oui, mais les femmes, elles sont de plus en plus puissantes. On a rajouté depuis d'autres femmes. Par exemple, il y a Sophie Bessis qui vient d'Afrique du Nord, de la Tunisie. Donc, il y a une femme puissante, importante en tout cas. Elle a écrit des essais qui comptent, donc on l'aura avec nous. On a aussi une révélation littéraire cette année qui est Oswald Delewat qui vient du Cameroun. Donc il y a des femmes, oui. Malheureusement, on ne peut pas inviter tout le monde. Comme je vous l'ai dit, c'est un salon restreint, mais il y a des figures importantes.
Et on saura à la fin de la semaine qui remporte donc le prix Kourouma. Mais je sais que vous ne voulez jamais dire à l'avance.
Je ne veux pas le dire à l'avance, mais je veux quand même vous donner un indice. Je vous ai dit, vous m'avez tendu la perche, ce sera une femme, et une femme remarquable.
Merci beaucoup Boniface Mongomoussa. Ce salon africain de Genève commence donc ce jeudi et se terminera dimanche 22 mai avec le nom de la lauréate donc, du prix Kourouma. Flani Connaré, nouveau titre de Vieux Phare Catouré en avant-première sur RFI, avant la sortie de son album en juin prochain, album qui sera intitulé Les Racines. En attendant le prochain sommet de l'OIF en novembre 2022, coup de projecteur aussi dans De Vive Voix, en BD sur les deux précédents sommets de la francophonie, Madagascar et Yerevan, période où vous êtes, Bertin Leblanc, porte-parole de Michaël Jean, alors secrétaire général de l'organisation. Vous nous l'avez raconté, vous êtes journaliste et on vous propose de prendre ce poste. L'arrivée fut difficile.
Oui, le contexte, très rapidement, en fait, le contexte interne, comme vous pouvez le constater dans la BD, est pas simple, parce que Michaël Jean et l'administrateur de l'époque, Adam Awan, avaient décidé d'un certain nombre de réformes, donc c'était déjà un peu crispé, un peu difficile. C'était le début d'une campagne assez violente à l'endroit de la secrétaire générale sur des dossiers de dépenses et d'investissements dans la presse québécoise. Donc très vite, je me suis retrouvé plongé dans une communication de crise très intense.
Et vous êtes dans un univers un peu hostile, en tout cas c'est votre impression, et dans une organisation que vous dites, c'est vous qui le dites, être à l'arrêt depuis 15 ans.
C'est un de mes personnages, en fait, qui signale ce...
C'est pratique, les personnages.
Mais c'est la réalité. Moi, je vous avoue que j'ai... ce qu'on disait de l'époque avant que je prenne le poste, beaucoup de gens m'ont dit « n'y va pas ». Comme je le raconte dans le livre, l'organisation avait une mauvaise réputation, il ne se passait pas grand-chose, etc. Bon. J'y suis allé quand même parce que le personnage de Michael Jean m'intéressait et je trouvais que son dynamisme... À l'époque, il faut se remettre dans le contexte, elle avait été gouverneure générale du Canada, elle avait beaucoup d'ambition. Moi, je la trouvais, je trouvais que c'était quelqu'un qui donnait envie, en tout cas. Donc, on s'est vus et je me suis dit, OK, bah, j'y vais. On va voir de l'intérieur ce qui se passe. Après, je pense que c'est pas que l'organisation est à l'arrêt. Je pense que c'est une organisation qui aurait besoin d'une réflexion globale sur son mandat. Et malheureusement, le temps politique, le temps médiatique ne semble pas permettre à l'organisation de pouvoir réfléchir à quoi elle devrait servir. Je vous raconte rapidement une anecdote si on a le temps. L'administrateur m'avait demandé de réfléchir à une stratégie de communication pour l'organisation. Et donc, je me suis mis à rencontrer l'ensemble des équipes. Donc, j'ai fait les 7 services et j'avais fait un petit exercice assez classique. Je leur ai demandé, écrivez-moi en quelques mots, le mandat de l'organisation, parce que j'avais besoin de comprendre effectivement, comme il y a plusieurs strates, plusieurs couches. Et en fait, j'ai eu 7 réponses différentes. Donc, aucun des services se voyait avec le même mandat, avec les mêmes objectifs, ce qui, en termes de communication, rendait la chose très compliquée. Mais je pense que c'est aussi la difficulté d'autrefois, de l'époque, qui peut donner une impression de paralysie. Et malheureusement, il n'y a rien qui a vraiment changé à ce chapitre aujourd'hui.
En tout cas, vous êtes en 2016 donc embauché pour faciliter la réélection de Michael Jean, puisque ce sont des mandats de 4 ans et qu'elle est déjà à mi-mandat. Mais si l'organisation est compliquée, Michael Jean, avec toute son énergie, a aussi quand même quelques faiblesses et notamment un égo surdimensionné. C'est ce que vous racontez. Et elle parle, elle parle, elle parle, elle parle, elle n'arrête pas de parler.
C'est une femme généreuse qui travaillait beaucoup.
Ça s'appelle un élément de langage, exactement. Une femme généreuse.
Non, mais globalement, en fait, ce qui m'a fasciné dans sa façon de faire, c'est qu'elle était vraiment pleinement engagée et très sincèrement engagée. Ce qui rendait la chose, même quand effectivement elle s'écartait un peu des consignes qu'on tentait de lui donner... Elle continuait, elle défendait ses points, même si on revenait, comme je le démontre, parfois elle était trop longue avec les médias, elle était trop longue dans ses discours, elle l'a prouvé, elle l'a vécu, elle l'a senti, mais c'est une femme qui va jusqu'au bout et son histoire à l'OIF est un témoignage assez probant sur sa vision des choses et aussi son idéalisme.
En fait. Et cet égo suppose ou entraîne plutôt des faiblesses et des forces. Parce que quand elle est, par exemple, en Centrafrique et qu'elle décide d'aller voir à l'hôpital des femmes qui ont été victimes de viols, elle y va et qu'importe ce que disent les autorités centrafricaines, par exemple.
Michael Jean n'a jamais oublié d'où elle vient. Ce qui fait que... Et c'est un personnage fascinant dans ce sens-là, parce qu'elle pouvait être à l'aise avec... un président africain ou français ou des personnalités politiques importantes, mais elle savait très bien se mettre au niveau des gens un peu, on va dire, ordinaires, mais elle créait vraiment une sympathie, elle savait vraiment rentrer en contact avec ces gens-là, et donc l'ego, j'ai envie de dire, ça peut être, ça sert à beaucoup de choses, ça sert aussi comme moteur, ça sert... Et je préfère un autre mot que égo. Je pense que c'est avoir de l'ambition, avoir une envie peut-être parfois disproportionnée, mais qui doit en principe se traduire avec les équipes dans le faire, dans cette capacité à comprendre les choses. Michael Jean était une journaliste d'abord, donc elle a raconté longtemps les histoires des autres.
Donc ça, c'est sa force, cette ambition. Ça peut être aussi une faiblesse parce que vous racontez avec beaucoup d'humour le rendez-vous du 31 juillet 2017 à l'Élysée avec Emmanuel Macron. Alors là, on est dans le dur. Elle va voir le chef de l'État pour jouer sa réélection. Elle est convaincue que le rendez-vous, c'est formidable bien passé, que le courant est au top entre elle et Macron. Et la page d'après, Macron sur le perron dit « Virez-la moi, je n'en veux plus, elle n'a rien compris ».
Oui, moi j'étais pas à ce rendez-vous, mais Madame Jean n'était pas la seule à avoir cette impression. Le directeur de cabinet, son attaché de presse, on était tous dans cette ambiance où on s'est dit « bah voilà, premier rendez-vous réussi ». C'était une étape importante puisqu'on sait que le président de la République française est un acteur déterminant pour l'OIF. Donc on n'a pas du tout senti les choses. En tout cas, les deux ou trois semaines qui ont suivi ce rendez-vous, on était convaincus que voilà, on était parti sur une bonne voie et que la réélection allait se jouer plutôt calmement. Mais dès mon retour en France fin août de cette même année, j'ai un coup de fil d'un collègue à vous de Jeune Afrique qui me dit. Est-ce que tu as entendu ? En fait, l'Élysée cherche quelqu'un d'autre pour remplacer Michaël Jean. Donc très vite, là, on s'est posé des questions, on a essayé d'avoir des informations, d'avoir des assurances, etc. Et puis, à partir de ce moment-là, on est rentré dans un instant très inconfortable parce qu'on avait, on n'avait aucun signal très fort de la France quant à la continuité du mandat. Donc ça, c'est très gênant parce qu'après tout ce qu'on essayait de déployer, on avait toujours cette espèce de petite épée de Damoclès en permanence qui nous...
Et elle va être lâchée au fur et à mesure comme ça par tout le monde. Elle fait la tournée des chefs d'État africains qui lui disent tous « Vous êtes formidable, Michaël Jean, c'est merveilleux, etc. » Et à peine a-t-elle tourné les talons que le chef de l'État dit à son conseiller, mais elle se rend compte de rien ?
Non, effectivement. En fait, il y avait une... Bon, Madame Jean est une femme assez contagieuse. Elle donne envie d'être avec elle et d'être auprès d'elle. Et effectivement, on s'est très peu méfié, en fait. Michaël Jean est quelqu'un qui fait confiance d'abord. La confiance, c'est quelque chose qu'on donne et qui se retire par la suite. Mais donc, elle avait cette posture où elle avait l'impression que quand les gens lui disaient « c'est formidable le travail que vous faites », que c'était vrai. Mais en réalité, on s'est rendu compte un peu trop tard que ce n'était pas tout à fait le cas.
Et puis, elle est ensuite lâchée, ça c'est le coup fatal, par le Premier ministre canadien. Alors, malgré tout, au sommet d'Erevan, elle arrive en Arménie avec le sentiment d'avoir une carte à jouer. Alors que l'affaire est pliée, puisque déjà depuis 4 ou 5 mois, on sait que Louise Mushikiwabo a été choisie par le président de la République et par l'ensemble des participants.
Encore là, en fait, il y avait une narration qui était extrêmement bien installée du côté de l'équipe de Madame Mushikiwabo, parce qu'on a la ligne de communication, et si on reprend les faits, établie par l'Élysée, c'était « on a besoin d'une Africaine pour... défendre la francophonie, puisque l'avenir de la francophonie se trouve essentiellement sur le continent. Et en fait, on a mis en place de façon très habile une première étape dans ce discours avec la réunion, les retrouvailles avec le Rwanda. Ensuite, il y avait un sommet africain de l'Union africaine en Mauritanie. Donc, à partir de ce moment-là, l'Union africaine embarquait derrière. Je rappelle qu'à l'époque, la présidence de l'Union africaine était occupée par le président Kagame. Donc, on était dans une espèce de mouvement quand même très, très, très bien orchestré et qui était difficile à affronter politiquement parce qu'il y avait, effectivement, il y avait une sorte de cohérence politique d'un point de vue ne serait-ce que démographique autour de l'organisation. Ce à quoi on a répondu, et c'est Madame Jean qui a répondu très rapidement sur la dimension africaine, je ne suis pas tombé d'un arbre. Voilà, on connaît tous l'histoire haïtienne. C'est pas quelqu'un qui était dépourvu de sens en termes de racines africaines. Et donc, très rapidement, on s'est dit... on a essayé de contrer cette machine, mais avec un bilan, parce que le bilan de Madame Jean était plutôt positif. Comme c'est une femme hyperactive, on voyait de plus en plus l'OIF en France et un peu partout dans la francophonie. Donc, on s'est dit peut-être qu'il y a une carte à jouer malgré cette dimension politique. On a gardé cette naïveté jusqu'au bout, jusqu'à Erevan.
Mais les communicants de l'Élysée ont été plus forts que vous.
Ah, parce que finalement, c'est compliqué pour les leaders africains, par exemple, de dire non à la France. Une fois que la France a décidé, c'est complexe, quoi.
Donc, Erevan, nous sommes en 2018 et Michaël Jean tient un discours très vindicatif devant l'ensemble des chefs d'État de la francophonie.
Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, c'est sous votre impulsion que la francophonie, au fil de ces quelques 50 ans, a renforcé ou élargi ses missions. C'est sous votre impulsion que la francophonie s'est affirmée comme une francophonie politique et diplomatique, toujours plus sollicitée par ses pays membres, mais aussi toujours plus entendue et attendue par ses partenaires internationaux. C'est sous votre impulsion aussi que nous nous sommes dotés de textes normatifs et de références exigeants sur la pratique de la démocratie, des droits et des libertés dans l'espace francophone, ainsi que sur la prévention des conflits et la sécurité humaine. C'est en cela que le bilan de mon mandat, que je vous présenterai, est aussi votre bilan. Sommes-nous prêts à accepter que la démocratie, les droits et les libertés soient réduits à de simples mots que l'on vide de leur sens au nom de la réelle politique, de petits arrangements entre États ou d'intérêts particuliers.
Dernier discours de Michaël Jean au sommet de l'OIF, on était donc le 11 octobre 2018, et c'est une attaque à peine voilée contre le Rwanda qui va donc imposer sa candidate. C'est un discours très offensif devant les chefs d'État de la francophonie, mais il faut rajouter que Macron n'est pas présent parce qu'il est parti très vite, et vous laissez entendre, Bertin Leblanc, que finalement le président de la République française ne s'intéresse pas vraiment à la francophonie.
Je crois que le président s'intéresse à la francophonie, il s'intéresse peut-être pas à l'OIF. Il faut ramener l'OIF à ce qu'elle est, c'est-à-dire c'est une toute petite structure que la France abrite à Paris, dans le 7e arrondissement. En termes diplomatiques, je pense que ça reste quelque chose qu'elle préfère garder un peu sous sa couperelle. Et puis donc... Et ça restait un outil. Je crois que très vite, l'Élysée a réalisé, une fois qu'on a identifié la personnalité de Mme Mushiki Wabo, a réalisé le joli coup politique qu'il pouvait avoir derrière, c'est-à-dire organiser ce travail de mémoire qui était indispensable avec l'État rwandais, avec les Rwandais. Et comme ça, on couplait un peu l'ensemble, quoi. Après, il y a un mystère qui, pour moi, reste... reste total, c'est-à-dire pourquoi il a décidé de changer de secrétaire général. Parce qu'on sait très bien que dans une organisation, 4 ans, c'est très peu. Et je ne sais toujours pas à ce jour pourquoi il a pris cette décision. Et il n'y a pas de transparence en la matière.
Clairement. Mais pour se rapprocher du Rwanda, peut-être.
Oui, mais c'est léger. En tout cas, globalement, c'est important. C'est extrêmement important. Je salue ce travail. Mais néanmoins, la raison fondamentale, parce que ce n'était pas le sujet au moment de cette première rencontre avec Michaël Jean. La candidature de Mme Mushiki Wabo est arrivée beaucoup plus tard dans le processus. Donc, le premier coup qui nous a été porté, je me l'explique toujours pas, en fait.
La francophonie est morte à Yerevan, dit le directeur de cabinet de Michaël Jean dans votre album de bande dessinée, Bertin Leblanc. C'est du verbatim ?
Oui, parce que on a eu le sentiment quand même que, comme le décrit très bien Madame Jean dans ce discours que j'invite tout le monde à consulter, parce qu'il est remarquable à plusieurs égards. Je vous rappelle que les textes fondamentaux de la francophonie politique sont constitués de ces questions sur les droits humains, la liberté de la presse, en fait tous les fondamentaux qui pour nous semblaient très importants. Donc l'idée qu'on passe la relais à une personnalité issue d'un régime qui est quand même très compliqué à ce chapitre. Pour nous, c'était une façon... C'est difficile, en fait, de porter ce message si on n'est pas crédible. Et effectivement, en termes d'exemple, c'était contre-productif. Et on verra avec le temps ce qu'il en est. Mais ça reste très, très, très sensible. Et bon, moi, j'ai travaillé plusieurs années pour des mouvements de défense de droits humains, Amnesty International et autres. Ça reste une question qui, pour moi, est importante et devrait rester au cœur des valeurs de l'OIF.
En un mot, Bertin Leblanc, presque 4 ans après, vous vous dites quoi ?
Qu'il faut continuer le combat, en fait. Et je crois qu'il y a besoin de réfléchir, parce que la francophonie, c'est quelque chose de quand même extraordinaire et merveilleux. Et j'ai essayé de le montrer dans toute sa diversité dans le film, et je pense que dans le livre. Et j'espère qu'on va réfléchir à comment on peut mieux utiliser cette organisation à des fins utiles pour la francophonie et les francophones.
Merci Bertin Leblanc. Élément de langage, votre album de bande dessinée avec Paul Gros est édité par La Boîte à Bulles. Pascal Paradou, Cécile Lavolo, Guillaume Ploquin, à demain.